Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Nous sommes samedi 22 juillet 2023. Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal en français, dont voici d'abord les principales articulations. Il y a exactement 7 ans que le journaliste du groupe de presse Siwachu, Jean Wigilimana, a été enlevé et porté disparu. L'Union burundaise des journalistes UBJ réclame toujours justice pour ce journaliste. Et puis le gouvernement burundais vient de revoir à la hausse les prix du carburant. On devrait s'y attendre selon un expert en économie qui dit que la valeur de la monnaie burundaise a sensiblement chuté, vous l'entendrez. Enfin, les Burundais du Canada n'attendent rien de bon de la visite de la CVR pour expliquer ses activités aux Burundais vivant aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Brésil. On fera le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Encore sans vie dans quinquagénaire a été retrouvé ce vendredi dans la rivière Kiangona, séparant les communes Gatala et Garumbo de la province de Kayanza. La personne tuée s'appelait Garungu Kom et habitait sur la colline Businde de la commune Garumbo. Ceux qui ont vu le corps font savoir que la personne aurait été tuée parce qu'il présentait sur la tête des traces de coups dans un objet métallique. Les gens pensent qu'il aurait fait objet de vengeance. Il n'y avait pas longtemps, il venait de rentrer de la prison où il était accusé d'assassinat. D'autres croient qu'il aurait été tué par des personnes qui voulaient lui voler de l'argent. 3 personnes présumées coupables sont pour le moment dans les mains de la police pour des raisons d'enquête. Le journaliste Jean Wigilimana du groupe de presse Iwachu est porté disparu il y a exactement 7 ans. L'Union burundaise des journalistes UBJ dit que ses confrères journalistes burundais ne se lasseront jamais de réclamer justice. Alexandre Niongeko, son président, demande au gouvernement burundais de sortir de son silence afin de mettre de la lumière sur la disparition du journaliste Jean Wigilimana. On l'écoute.
7 ans jour pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition forcée de notre confrère Jean Wigilimana. À cette occasion, l'Union burundaise des journalistes prend cette occasion, encore une fois, pour réclamer justice pour notre confrère Jean Wigilimana. Il est inconcevable que dans un pays, quelqu'un, un journaliste, puisse être porté disparu et que rien n'y fait et que les auteurs continuent à se la coller douce. C'est très regrettable. Nous profitons encore une fois de cette occasion pour exprimer notre désapprobation, exprimer notre désarroi face à ce crime crapuleux, à ce crime qui reste impuni. Nous appelons encore une fois les autorités burundaises pour qu'ils se penchent sur cette question et que la lumière soit faite et que la justice soit faite. Nous ne nous lasserons jamais de réclamer cette justice et nous sommes confiants que tôt ou tard, cette justice, quand elle sera restaurée, elle va donner la lumière sur ce crime qui nous a emporté un confrère qui a endeuillé sa famille et qui a endeuillé la famille des professionnels des médias, la famille des journalistes et cette famille dont nous faisons partie va toujours réclamer cette justice, va toujours continuer à demander cette justice jusqu'à ce qu'effectivement les coupables soient connus et traduits devant les juridictions compétentes.
Le journaliste du groupe de presse Jean Wigilimana a été vu pour la dernière fois le 22 juillet 2016 à Bugarama en province Muranza. Des témoins ont déclaré qu'il avait été arrêté par des agents du service de renseignement. Justice, c'est également 2 hommes, Issa Girukushaka et Issa Wakanibona, natifs respectivement de la commune Muyinga et de la commune Utihinda en province Muyinga, ont été condamnés vendredi à 1 année de prison au paiement d'une amende d'un million de francs burundais chacun. Les 2 hommes étaient poursuivis par le parquet près le tribunal de grande instance de Muyinga pour sabotage de l'économie nationale après avoir été appréhendé en possession de 160 litres et 460 litres d'essence selon une source proche de cette juridiction. Au cours du procès en flagrance, les 2 prévenus ont plaidé coupables et demandé pardon pour les faits leur reprochés. Signoline Nijimbele nous en dit plus.
Les 2 hommes reconnus coupables de sabotage de l'économie nationale avaient été appréhendés en possession de carburant de type essence, mais à des dates et endroits différents, affirme une source proche du tribunal de grande instance de Muyinga. Le tribunal en audience de flagrance, après avoir entendu les charges du ministère public et les explications des prévenus, a infligé aux deux hommes une peine d'emprisonnement d'une année ou alors le paiement d'une amende d'1 million de francs et resté libre de tout mouvement, précise la même source. Les prévenus ont opté pour la peine alternative, c'est-à-dire le paiement de l'amende, le carburant confisqué et remis à l'administration provinciale. Issa Gilkwishaka avait été arrêté le 8 juillet sur la colline Chibali, en commune Muyinga, en possession de 8 bidons d'essence, soit 160 litres, cachés chez son grand-père, tandis que Issa Bakanibona avait été arrêté à Kamaramagambo, en commune Wutihinda, le 19 juillet, en possession de 23 bidons d'essence, soit 460 litres, en provenance de la Tanzanie, où il venait de s'approvisionner.
L'actualité de ce samedi, c'est aussi le prix du carburant qui a été revu à la hausse des vendredis par le ministère en charge de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. En litre d'essence passe de 3250 à 3985 francs burundais. Le prix du gazoil passe de 3450 à 3795 francs le litre. Ces nouveaux tarifs du carburant ne devraient étonner personne car la monnaie burundaise connaît une dévaluation très remarquable. C'est l'explication d'un expert en économie, Faustin Dekumana, et directeur national de la PARSEM. Pour lui, le gouvernement devrait prendre l'engagement de payer régulièrement et à temps les fournisseurs extérieurs du carburant pour éviter des pénuries incessantes de ce produit.
Nous demandons au gouvernement d'accorder son marché aux importateurs qui ont la logistique nécessaire pour faire arriver le carburant à Bujumbura. On ne veut pas le carburant qui est à Dar es Salaam. Le carburant doit arriver à Bujumbura. Il faut avoir des importateurs capables avec une logistique acceptable, que ce soit des Burundais ou des étrangers, peu importe, l'essentiel est que le carburant soit sur place. Il faut ajouter son courrier parce que le Burundi c'est un pays enclavé, on n'échappe pas. Alors, le gouvernement devra prendre l'engagement de payer régulièrement les fournisseurs extérieurs du carburant. Quant aux perspectives, Tarsem est vraiment averti le gouvernement et la population que si la situation des devises continue à être comme ça, il peut y avoir une autre dévaluation. Cette dévaluation aura comme des conséquences d'augmentation des prix. Donc, il faut que le gouvernement aille dans la logique de mettre en application l'accord avec le Fonds monétaire international pour voir s'il pourra avoir des devises suffisantes pour réapprovisionner le marché des devises dans les banques commerciales. Sinon, s'il y a une autre dévaluation, ça aura des conséquences sur les prix du carburant. Et encore une fois, vous voyez que la structure carburant montre environ 1000 francs de taxes. Il y a taxes carburant, les droits d'accise, il y a la TVA. C'est pas si dans les perspectives que le gouvernement pourrait arrêter ces taxes pour voir si le prix du carburant ne continue pas à augmenter vertigineusement. Parce que si ce carburant continue à augmenter, l'inflation sera encore une fois frappée parce que va augmenter. La situation inflationniste va encore une fois aller crescendo. C'est pour cela vraiment que nous avertissons, soit on appelle au gouvernement que le Burundi a dans une situation économique difficile et qui résulte d'un mauvais comportement de corruption, de mauvaise gouvernance économique qui a été érigée en mode de gestion des affaires de l'État. Il faut alors prendre toutes les mesures pour inverser la tendance.
Je le disais en titre, les Burundais de la diaspora Canada disent ne rien attendre de bon de la rencontre organisée par la Commission Vérité et Réconciliation Sévère. Par ailleurs, le rapport d'étape présenté par cette commission présente plusieurs manquements, comme l'explique Apollonie Simbidi, porte-parole de l'Alliance des Burundais du Canada, ABC Canada. C'est après que l'ambassade du Burundi aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Brésil et envoyer une invitation à l'endroit de la diaspora burundaise vivant dans ces pays pour un entretien avec une délégation de la CVR du Burundi à Washington pour ce samedi 22 juillet 2023. Apollonie Simbizi fait savoir que cette commission Vérité et Réconciliation n'apportera rien au Burundais aussi longtemps qu'elle ne prendra pas en considération les accords d'Arusha. On l'écoute.
Cette CVR ne pourra pas mener le peuple burundais à une vraie réconciliation sans la recherche de la vérité sur toutes les crises qui ont endeuillé le peuple burundais dans toutes ses composantes et dans son ensemble. L'Alliance des Burundais du Canada voudrait rappeler qu'en compagnie des autres organisations de la société civile, civile et de la diaspora burundaise, déjà en 2021, ont eu l'occasion d'exprimer leurs inquiétudes et lancer une alerte à l'opinion nationale et internationale sur les manquements graves contenus dans le rapport d'étape présenté par la CVR. Elles considèrent que la mission de la présente CVR a lamentablement échoué au vu de son travail et de ses résultats. Ces tournées actuelles ne trompent donc personne, sauf ceux qui sont dupes ou qui ne suivent pas la réalité de ce qui se fait à ce sujet. L'ABC voudrait rappeler quelques manquements qui poussent à se questionner sur les motivations de la CVR qui a choisi de s'écarter de sa mission telle qu'est définie par l'accord d'Arusha, qui voulait la recherche de la vérité sur les atrocités commises au Burundi dans leur ensemble. D'abord, la CVR a été mise en place unilatéralement, sans respect ni du contenu de l'accord d'Arusha, ni des recommandations des Nations Unies, voire le rapport Kalomo, et encore moins les conclusions des consultations populaires organisées à travers le pays en 2010, donc une CVR taillée sur mesure des attentes du pouvoir en place, avec à sa tête un président gagné à sa cause, y compris certains membres de la commission. La CVR a travaillé dans un contexte d'insécurité peu rassurant, tout le monde le sait, pour les témoins, ce qui pousse à se questionner sur la véracité des témoignages recueillis. La méthodologie de travail utilisée, sans recours aux méthodes reconnues et une expertise indépendante avec des moyens adéquats, notamment les ossements ou les restes humains exhibés, impossibles à dater et une conservation inadéquate. Aussi, la CVR s'est empressée à qualifier cette crise de 1972 de génocide des Bahutu du Burundi sans enquêter les autres épisodes des crises politico-ethniques au Burundi.
Parlons droit des réfugiés à présent. Le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR devrait venir en aide le plus rapidement possible aux réfugiés du camp de Nyarugusu pour qu'ils reçoivent encore des médicaments. C'est du moins l'appel lancé ce samedi par la coalition CBDH Vicar. C'est après que les réfugiés vivant dans ce camp aient dénoncé la non-assistance médicale pour les réfugiés vivant avec des maladies chroniques. Jean Poscozi Zigilo, le porte-parole de cette coalition, demande à la Tanzanie de respecter les lois internationales pour la protection des réfugiés auxquels elle a ratifié.
Il y a quelques jours que les réfugiés du camp de Nyarugusu n'ont pas droit à être assistés du point de vue sanitaire. C'est un cri d'alarme que nous avons toujours lancé parce que parmi les domaines dans lesquels les réfugiés en général en Tanzanie se voient refuser, il y a entre autres la santé et l'éducation. Et ce sont ces domaines qui font vivre les gens. Mais les autorités utilisent son refus pour les pousser à rentrer, comme nous l'avons toujours signalé. Mais la situation, quelles que soient les conditions, toute personne a droit, parmi les droits, elle a droit d'être soignée. Même si quelqu'un rentre demain ou après-demain et qu'il tombe malade aujourd'hui, il doit être soigné. Alors, nous demandons aux HCR qui donnent les fonds de suivre de près aussi cette situation pour que les réfugiés soient soignés. Mais aussi nous demandons à la Tanzanie de fournir les efforts pour respecter la Convention de Genève en charge des réfugiés.
Inzamba. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le phénomène de harcèlement sexuel en milieu scolaire qui prend de l'ampleur ces derniers jours. Ce magazine vous est présenté par Olivia Gakima.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idouya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire fait de plus en plus parler de lui au Burundi. Certains enseignants, au lieu d'être de bons éducateurs, préfèrent se comporter comme des loups à la bergerie envers les jeunes filles. Le ministère de l'Éducation reconnaît que ce fléau prend actuellement une allure inquiétante. Ce ministère accuse la justice de parfois même protéger les présumés auteurs de ce crime abominable. Que devrait-on normalement faire pour éradiquer ce crime de violence sexuelle en milieu scolaire ? Avec l'aide d'une personne qui suit de près les questions de l'éducation au Burundi, voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans ce magazine au cœur de la société de ce 22 juillet 2023. À la présentation, vous êtes avec Olivia Gakima. Bienvenue.
<t'en> Il est très dommage que certains enseignants soient traduits en justice pour avoir violé des élèves et que la justice protège le bourreau et non la victime. Ce regret est du ministre de l'Éducation François Habyarimana. C'était ce vendredi 21 juillet 2023 au cours d'un forum organisé pour concilier la modernité et la culture burundaise dans l'éducation des jeunes.
C'est une très mauvaise chose. Malheureusement, c'est que parfois, lorsqu'un éducateur qui a commis de tels crimes est présenté devant la justice, il est blanchi par la même justice qui parfois modifie la dénomination de l'infraction pour faciliter la tâche. Dans des moments pareils, les responsables de l'éducation et de la justice devraient faire tout leur possible pour que son mal soit éradiqué dans notre pays. Le problème, c'est que ça soit au sein de la communauté, en cours de route vers l'école ou à l'école même, ces violences à l'égard des filles sont présentes et ça se passe au vu de certaines personnes, mais qui restent silencieux. Ceci explose lorsqu'il y a un élément déclencheur, comme le fait d'attraper des élèves en train de tricher avec des copies d'examen reçues à l'avance, comme nous l'avons récemment constaté dans certaines provinces.
Merci pour notre confrère de la RPA pour cette voix du ministre de l'Éducation. Malgré ces manquements au niveau de la justice, le ministère de l'Éducation ne devrait pas baisser les bras dans la lutte contre ce fléau de violence sexuelle en milieu scolaire. Selon la syndicaliste Eulalie Bidzi, qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi, on devrait nommer des conseillers en matière de violence basée sur le genre auprès de toutes les cours et tous les tribunaux.
Les raisons que le ministre en charge de l'éducation avance, oui, il y a une des vérités, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le ministère ne doit pas baisser les bras et il doit être innovateur du fait que si au niveau de la justice, il y a la corruption, il y a l'impunité, il y a toutes sortes, il y a même l'incompétence. Et il ne faut pas que, suite à l'incompétence et à tous ces défauts de la justice qui sont connus, que le ministère baisse les bras. Ce que je recommande, c'est que, d'une part, en tant que ministre et en charge de l'éducation, il a une certaine force au niveau du gouvernement, qu'il collabore avec la ministre et en charge de la justice, afin qu'il puisse analyser comment renforcer la loi. C'est d'abord réformer au niveau de la justice, et rendre la justice indépendante afin qu'elle ne subisse pas les manipulations politiciennes. Mais aussi, il faut qu'au niveau de la justice, il y ait des conseillers en matière de violences sexuelles basées sur le genre. Qu'aucun procès en rapport avec les violences sexuelles ne soit mené, que les investigations bénéficient des conseillers en matière de violences sexuelles basées sur le genre. Parce que ce sont ces gens-là qui ont la sensibilité au problème et qui peuvent donner des conseils, qui peuvent orienter en matière d'investigation, en matière de traitement des dossiers de ce genre, d'une part. D'autre part, c'est au niveau aussi de la justice, il faut protéger les témoins. Protéger les témoins, il y a les témoins victimes, il y a les témoins du milieu scolaire, il y a des témoins du milieu environnant. S'il y a des stratégies pour protéger, pour encourager les gens à alerter, pour encourager les gens à alerter quand ils observent une tendance au niveau des relations avec les filles en milieu scolaire et même au niveau de l'administration, que ceux qui alertent ne soient pas victimes de harcèlement judiciaire comme Emilienne Sibomana, parce que j'en connais qui ont été blanchis par la justice quand j'étais au ministère de l'Éducation, et quand nous avons mené des enquêtes, ils ne sont pas retournés en milieu scolaire. Il faut alors des mécanismes internes de gestion de ce fléau, mais aussi une collaboration pour lutter contre l'impunité.
Ce Selon le rapport du Programme national de la santé et de la reproduction, PNSR, rendu public le 22 septembre 2022, plus de 1300 élèves ont été victimes de grossesses non désirées au Burundi au cours de l'année scolaire 2021-2022. Plus de 10% d'entre elles étaient âgées entre 10 et 14 ans. Les enseignants ont été cités parmi les auteurs de la plupart de ces grossesses non désirées. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Olivia Gatima, j'étais avec vous à la présentation. Au revoir et bon week-end.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et comme tous les samedis, nous bouclons ce journal par la revue de presse et nous a été préparée par Eddie-Claude Nininazgwe. Suivez.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bienvenue à tous à cette revue de presse hebdomadaire que nous commençons par SOS Média. Ce journal écrit sur la vandalisation des tombes qui s'observent au cimetière de Kinyota, au centre-ville de Muyinga, au nord-est du Burundi. Ce cimetière, situé non loin du stade de football au centre de Muyinga, est souvent la cible des gens qui détruisent les tombes. Ces gens cherchent la croix en métaux et les carreaux qu'ils vendent par après aux soudeurs et aux carreleurs, selon SOS Média. Même si aucune personne n'a été attrapée, les enfants en situation de rue sont soupçonnés. Restons encore en province Muyinga, mais cette fois-ci dans la commune de Wenyuza. Le journal Iwachu parlait de 427 femmes qui ont obtenu des certificats de parcelles, devenant ainsi des propriétaires légales. Des femmes qui se sont confiées au journal Iwachu disent qu'il ne leur est pas facile d'avoir accès à la propriété, surtout pour celles qui n'ont pas eu d'enfants. Elles affirment être toujours en conflit foncier avec les membres de leur famille. Une d'elles indique que le procès qu'elle avait avec ses frères a duré 9 ans. Espérance Daikeza, administrateur de la commune Wenyuza, fait savoir que la certification de parcelle accordée à ces 427 femmes a été le fruit d'une campagne de sensibilisation effectuée sur 12 collines des 25 que compte la commune sur le droit de propriété pour les femmes exclues très souvent à l'accès à la terre. Mais de vieilles mentalités restent encore réticentes, surtout pour les veuves sans enfants. Burundi Echo pour continuer ce journal sur quand le processus électoral sera-t-il inclusif au Burundi. Il indique que les femmes, les jeunes et les handicapés ne sont pas représentés dans des instances de prise de décision comme il le fallait. Selon le journal Burundi Echo, la voie la plus sûre pour s'en sortir est l'adhésion dans des partis politiques, mais il s'est remarqué que les jeunes sont souvent manipulés par les plus âgés des partis politiques qui profitent de la mauvaise situation financière des jeunes pour les conduire dans de sales besognes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous bouclons la revue de presse hebdomadaire. Vous étiez avec Eddie-Claude Nazoué. Au revoir et bon week-end chez vous.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Merci Eddie-Claude Nininazgwe et c'est par là que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un excellent week-end à tous. Au revoir et à bientôt.